Exme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les Écritures et notre culture.
Cours, Exme ! Cours !
Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler histoire de famille avec une femme qui s'entend hyper bien avec sa belle-mère.
Aurélie ne supporte plus les intrusions de sa belle-mère et la journée tourne à l'affrontement.
Et non, ce n'était pas une antiphrase, on va vraiment parler d'une très belle sororité entre belle-maman et sa bru. En revanche, la belle-fille se voit rejetée comme une malpropre au moment de son installation dans un pays étranger. Aujourd'hui, on va parler de Ruth.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
Personnage pas si bien connu de l'Ancien Testament, Ruth est issue d'un peuple étranger et même ennemi d'Israël. Pourtant, elle apparaît parmi les ancêtres de Jésus présentés en Matthieu 1. On vous explique tout, mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner au podcast, nous laisser une note 5 étoiles, un petit commentaire. Et si vous êtes fidèle du podcast, pensez à nous faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, c'est parti! Pour commencer, on va d'abord présenter deux personnages, Noémie et, un peu moins courant, Élimélec, un couple de Bethléem, ville de la tribu de Juda. Ils émigrent vers une autre contrée avec leurs deux fils car Bethléem est frappée par la famine. La petite famille se rend alors dans le royaume de Moab, situé à l'est de la mer Morte dans l'actuelle Jordanie. Or, tout au long des différents livres bibliques, les habitants de Moab sont présentés comme les ennemis du peuple d'Israël. La famille s'installe donc dans un terrain hostile, dans un lieu nommé Champ de Moab. Ça ferait un bon nom d'arrêt de bus. Les deux fils de Noémie et Élimélec, Kilion et Malon, prennent pour épouse deux femmes moabites, c'est-à-dire habitantes du royaume de Moab, Orpa et Ruth. Sauf que, comble de malheur, au bout de 10 années, le mari et les deux fils de Noémie meurent tous les trois. Noémie se retrouve donc seule avec ses deux belles filles.
Allô, bonjour Jean-Claude, ça va? Oui, c'est belle maman. Oui, très bien, très calme, une très bonne journée. Vous la sentez, ça va, le boulot, tout ça?
À ce moment de l'histoire, plus rien ne retient Noémie, son mari et ses deux fils sont morts. Et voilà qu'elle apprend que la famine est terminée. Elle décide logiquement de revenir chez elle et prend ainsi la direction de Bethléem, accompagnée de ses deux belles filles, Orpah et Ruth. Sur le chemin, Noémie leur dit de retourner dans leurs familles respectives et de rester vivre dans le pays de Moab, dont elles sont originaires. Dans un premier temps, les deux belles filles refusent catégoriquement de l'abandonner. Mais voyons ce qu'il se passe, tandis que Noémie redit à ses belles filles de rester à Moab. Retournez chez vous, mes filles, on est dans le livre de Ruth, au chapitre 1, versets 14 à 19.
Alors, les deux belles filles, de nouveau, élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterrée. » Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. » Voyant qu'elle était résolue à l'accompagner, Noémie cessa de lui parler de cela. Ainsi, elles allaient leur chemin, toutes les deux, jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux détendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de sel.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras.
En 1995 sortait l'album 2 de Céline Dion et il y a des pépites bibliques dans tous les sens avec La mémoire d'Abraham, Les derniers sont les premiers ou bien encore ici, de façon plus subtile, J'irai où tu iras qui reprend un verset du premier chapitre du livre de Ruth. Voilà donc Noémie, sans mari, sans fils mais avec ses deux brus du pays de Moab, en route vers Bethléem. Si vous êtes familier de nos podcasts, vous le savez, les prénoms ont toujours une signification qui nous renseigne sur les personnages. C'est également le cas ici. En effet, en hébreu, Orpa signifie « volte-face ». Or, comme l'indique son prénom, Orpa, après avoir suivi un temps Noémie, fait volte-face et s'en retourne chez elle, au pays de Moab. Ruth, elle, reste fidèle à sa belle-mère Noémie et décide de la suivre dans son voyage retour en direction de Bethléem. Le prénom Ruth, en hébreu, signifie justement « compagne, amie ». Au passage, notons le courage de Ruth. En effet, non seulement elle abandonne son pays et sa famille, mais qui plus est, elle se rend à Bethléem, autrement dit, dans une région où l'on ne peut pas blairer les habitants de Moab. Et mine de rien, 10 ans ont passé depuis que Ruth est entrée dans la famille de Noémie. Le texte ne le dit pas explicitement, mais on peut deviner que les deux femmes ont largement échangé. Ainsi, on peut faire l'hypothèse suivante. Ruth, via sa belle-mère, découvre le Dieu d'Israël, si bien qu'elle s'est attachée à la fois à Noémie, qui lui a fait découvrir le Seigneur, et à Dieu. D'une certaine façon, le déplacement géographique de Ruth symbolise sa conversion au Dieu d'Israël. En effet, elle quitte son pays et se détourne des divinités et rites de Moab pour adopter le Dieu unique, le Dieu du peuple élu, comme l'indique clairement sa confession de foi.
« Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. »
La chorale anglaise des Exultate Singers reprend textuellement les paroles que Ruth adresse à sa belle-mère Naomi dans le chant de Ruth « Wherever you go, I'll go ». Reprenons le fil de l'histoire. Noémie et sa belle-fille Ruth se rendent donc à Bethléem, ville d'origine de Noémie. Les habitants ont du mal à croire que c'est Noémie qui revient, qui plus est, accompagnée d'une étrangère originaire de Moab, peuple ennemi d'Israël. Le texte biblique dit que les deux femmes arrivent au moment de la moisson d'orge. Pauvres et sans ressources, les deux femmes se retrouvent alors dans l'obligation de glaner, car elles ne possèdent pas de terre. Pour les citadins qui n'ont jamais vu la couleur d'une carotte, glaner ça veut dire ramasser dans les champs, ici les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Car la loi juive permettait effectivement aux indigents de glaner ce qui tombait derrière les moissonneurs, on peut lire ça en Deutéronome 24. Pour autant, si glaner dans les champs est un droit des pauvres selon la loi, dans les faits, l'exercice de ce droit dépend des bonnes grâces des propriétaires. Découvrons ce qui se passe pour Ruth qui part glaner dans les champs avec l'accord de sa belle-mère, toujours dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 3 à 12.
Ruth partit glaner dans les champs, derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boaz, du clan d'Élimélec. Et voici que Boaz arriva de Bethléem. Il dit aux moissonneurs: Le Seigneur soit avec vous. Et ceux-ci lui répondirent: Que le Seigneur te bénisse. Boaz demanda à son serviteur, le chef des moissonneurs: À qui appartient cette jeune femme? Celui-ci lui répondit: Cette jeune femme est une Moabite. Elle est revenue avec Noémie des champs de Moab. Elle a dit: Laisse-moi glaner et ramasser ce qui tombe des gerbes, derrière les moissonneurs. Depuis qu'elle est arrivée, elle est restée debout, depuis ce matin jusqu'à maintenant. C'est à peine si elle s'est reposée. Boaz dit à Ruth: Tu m'entends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. Alors, Ruth se prosterna face contre terre et lui dit: Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit: On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie. Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait, qu'elle soit complète la récompense dont te comblera le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter.
Tout d'abord, ce passage nous apprend que le propriétaire du champ où glane Ruth, c'est Boaz, un cousin d'Élimélec, feu le mari de Noémie, donc en gros, ils sont de la même famille. La possibilité offerte à Ruth de ramasser quelques épis dans les champs moissonnés dépend ainsi de la bonne volonté de Boaz, qui en est souverain. Mais Ruth est une étrangère. Et c'est là que Boaz apparaît comme le bon samaritain et fait preuve d'une très grande générosité à l'égard de Ruth. En effet, il demande délibérément à ses serviteurs de la laisser venir se servir dans les champs pour glaner quelques restes, alors qu'elle est étrangère et qui plus est, Moabite.
J'aime toutes les manières, même celles où tu boudes, où tu t'énerves. Tu ressembles à notre fille, surtout quand tu penses les lèvres. Je veux pas d'une autre femme, et surtout même pas en rêve. Je veux pas d'une autre femme, et cela, quoi qu'il arrive.
Tu seras mon Boaz, je serai ta Ruth. Celle qui t'encourage, même dans tes luttes. Et quand vient l'orage, je serai ta Ute. Ouais, je t'aimerai toute ma vie.
L'histoire entre Ruth et Boaz en rap, c'est possible, bah ouais, pourquoi pas, et ça c'est grâce à Raf to Flow. Boaz est admiratif du comportement de Ruth et il y a de quoi, elle a abandonné les siens, sa terre et ses divinités pour suivre sa belle-mère dans un pays où elle est considérée comme une étrangère, méprisée et rejetée. Pris d'un élan de générosité, Boaz exprime clairement la permission qu'il accorde à Ruth. Celle-ci peut librement glaner dans son champ. Mais Boaz ne s'arrête pas là, il ordonne carrément à ses serviteurs de faire tomber des épis de leur chariot pour que Ruth ait plus d'épis à ramasser. Là, on se croirait carrément dans la saison 26 de L'Amour est dans le Pré. Pour Ruth, c'est Byzance. Voyons ça toujours dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 17 à 19.
Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Puis elle égrena ce qu'elle avait glané. Elle avait recueilli une quarantaine de mesures d'orge. Elle l'emporta et revint en ville. Elle montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Ce qu'elle avait gardé après s'être rassasiée, elle le sortit aussi pour le lui donner. Sa belle-mère lui dit « Où donc as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi !» Elle raconta alors à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé, et lui dit « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. »
Noémie est stupéfaite de la quantité d'orge rapportée par Ruth. Et là, une petite conversion s'impose, une mesure vaut environ 45 litres. À ce niveau, c'est plus du glanage, c'est un braquage. Bref, cette énorme quantité ne s'explique que par une faveur de Boaz dont Ruth a été l'objet, d'où l'étonnement de la belle-mère Noémie.
No me pidas que te deje, no me apartaré de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré.
Dans cet air latino, Richie Bay et Bobby Cruz reprennent eux aussi l'histoire de Ruth avec sa belle-mère Noémie sur un air de salsa de Porto Rico qui sent bon l'estivalité et les danses au soleil et pourquoi pas un petit mojito. Revenons à nos moutons. Face à cet élan de générosité de Boaz, ça fait tilt dans la tête de Noémie qui s'invente agent matrimonial. Elle élabore donc un plan pour que Ruth séduise Boaz. On voit ça au chapitre 3 du livre de Ruth, versets 3 à 6.
Noémie dit à Ruth, « Va te baigner, te parfumer et mettre ton manteau. Tu descendras sur l'air. Ne te fais pas reconnaître de l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il sera couché, tu sauras où il se couche. Alors, va, découvre-lui les pieds et là, tu te coucheras. Lui t'indiquera ce que tu devras faire. » Et Ruth lui répondit, « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Elle descendit sur l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné.
Si Ruth vient s'allonger pendant la nuit contre Boaz, qui en plus a bu pas mal de vin, il risque d'avoir envie de coucher avec elle, c'est un peu olé olé, c'est pour ça que Noémie commande à Ruth de se coucher aux pieds de Boaz. Et comme l'avait envisagé Noémie, Boaz s'endort avec Ruth à ses pieds, sans s'en rendre compte. Mais au milieu de la nuit, ça caille à la campagne, il a froid, se réveille, et c'est là qu'il se rend compte qu'il ne dort pas seul, on peut lire ça dans le texte, toujours au chapitre 3 du livre de Ruth, versets 9 à 11.
Boaz demanda à Ruth, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « C'est moi, Ruth ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car c'est toi qui as droit de rachat. » Alors il dit, « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Ce geste d'attachement est encore plus beau que le premier. Tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Car tout le monde ici sait que tu es une femme parfaite. »
Bon là c'est beaucoup plus mystérieux, il y a des expressions bibliques et du droit foncier à expliquer. En disant à Boaz d'étendre sur elle son manteau, Ruth se compare à une terre. Autrement dit, par cet abaissement, elle exprime une immense marque d'humilité. Mais par cette métaphore de la terre et du manteau étendu, Ruth laisse entendre que la fécondité de la tribu de Juda passera par cette bonne terre qu'elle représente ici. Quand Ruth demande à Boaz d'étendre sur elle le pan de son manteau, elle lui demande de l'épouser. De quoi vous donner des idées pour de prochaines demandes en mariage pour vous, chers auditeurs. Le langage est symbolique, ce n'est pas facile à comprendre, il n'est donc pas question ici de porte-manteau ou de parapluie pour contrer les avalanches du mois de février, mais bel et bien de noces et d'alliances. La Bible est parfois parsemée d'expressions étonnantes à savoir décoder, et c'est pour ça qu'on est là.
Let's make a plan.
Uh-huh.
I said, for what? And she said, to get your man.
Okay.
I said, oh, really? Him marry me?
Mm-hmm.
I waited, then he got down on one knee.
Got him.
Dans des petites vidéos virales sur les réseaux sociaux, des internautes ont créé de petites biographies de personnages en rap. On appelle ça des Alléluia Roll Call. Et ici, c'est l'histoire de Ruth, résumée en quelques lignes. Mettons-nous un instant dans les sandales de Boaz. Il a bien des raisons d'être choqué par ce que fait Ruth. Dans le contexte de l'époque, il aurait pu être horrifié par l'idée d'épouser une femme moabite. Selon le livre d'Esdras, il est interdit à un juif d'épouser une moabite. Ailleurs encore, dans le Deutéronome, la prescription est très claire.
L'ammonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur. Et cela pour toujours.
Boaz étant un habitant de la tribu de Juda, ce mariage n'aurait a priori aucune chance de voir le jour. Oui, mais voilà, le livre de Ruth, c'est justement l'anti-Esdras. Boaz regarde la situation avec les yeux du cœur, et il voit que Ruth va bien au-delà de ce qui serait attendu par la loi. De ses yeux, il voit combien elle est courageuse, fidèle et loyale, sans compter la profession de foi qu'elle adresse à sa belle-mère Noémie, au moment de la suivre et de retourner à Bethléem. On vous résume la suite de cette histoire rocambolesque. Boaz va effectivement épouser Ruth. Le couple va donner naissance à un fils, Obed. Obed deviendra le père de Jessé, qui deviendra lui-même le père de David. Autrement dit, Boaz et Ruth sont les arrière-grands-parents de David, le roi David, deuxième roi d'Israël. Bref, la fine pointe du livre de Ruth consiste à souligner qu'une femme étrangère, une Moabite qui plus est, prend place au sein de la généalogie des rois d'Israël. Et cette descendance ne s'arrête pas à David, en effet, dans le Nouveau Testament, comme l'indique le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, Jésus est lui-même descendant du roi David et donc de Boaz et de Ruth, via son père Joseph. Ainsi, au sein même de l'ascendance de Jésus, il y a des étrangers, bref, Jésus, Dieu fait homme pour les chrétiens, prend place au sein d'une vraie famille humaine, une famille métissée, une famille avec toute une histoire. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller glaner quelques épis dans le champ du voisin et d'aller déjeuner chez votre belle-mère. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et pensez à nous faire un don sur prixme.org. On ne vit que de dons chez Prixme. Et on se quitte avec Céline Dion parce que maintenant, vous ne danserez plus de la même façon sur J'irai où tu iras. À très très vite.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux des torrents sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les torrents, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras de sel.
J'irai où tu iras.
Mon pays sera toi.
J'irai où tu iras.